Je vais m'asseoir là, sur un banc, que j'ai appelé le banc Frédéric. » Puis elle se mit à regarder les meubles, les bibelots, les cadres, avidement, pour les emporter dans sa mémoire. Le portrait de la maréchale était à demi caché par un rideau, mais les ors et les blancs qui se détachaient au milieu des ténèbres l'attirèrent. « Je connais cette femme, il me semble. »« Impossible, » dit Frédéric. « C'est une vieille peinture italienne. » Elle avoua qu'elle désirait faire un tour à son bras, dans les rues. Ils sortirent. La lueur des boutiques éclairait par intervalles son profil pâle. Puis l'ombre l'enveloppait de nouveau, et au milieu des voitures, de la foule et du bruit, ils allaient sans se distraire d'eux-mêmes, sans rien entendre, comme ceux qui marchent ensemble dans la campagne sur un lit de feuilles mortes. Ils se racontèrent leurs anciens jours, les dîners du temps de l'art industriel, les manies d'Arnoux, sa façon de tirer les pointes de son faux col, d'écraser du cosmétique sur ses moustaches, d'autres choses plus intimes et plus profondes. Quel ravissement il avait eu la première fois en l'entendant chanter. Comme elle était belle le jour de sa fête à Saint-Cloud. Il lui rappela le petit jardin d'Auteuil, des soirs au théâtre, une rencontre sur le boulevard, d'anciens domestiques, sa négresse. Elle s'étonnait de sa mémoire. Cependant, elle lui dit « Quelquefois vos paroles me reviennent comme un écho lointain, comme le son d'une cloche apportée par le vent. Et il me semble que vous êtes là quand je lis des passages d'amour dans les livres. » « Tout ce qu'on y blâme d'exagérer, vous me l'avez fait ressentir, » dit Frédéric. « Je comprends, Werther. » Que ne dégoûte pas les tartines de Charlotte. Pauvre chère amie. Elle soupira et après un long silence, n'importe, nous nous serons bien aimés. Sans nous appartenir pourtant. Cela vaut peut-être mieux, reprit-elle. Non, non, quel bonheur nous aurions eu. Oh, je le crois, avec un amour comme le vôtre. Et il devait être bien fort pour durer après une séparation si longue. Frédéric lui demanda comment elle l'avait découvert. « C'est un soir que vous m'avez baisé le poignet entre le gant et la manchette. Je me suis dit, mais il m'aime. » J'avais peur de m'en assurer, cependant. Votre réserve était si charmante que j'en jouissais comme d'un hommage involontaire et continu. Il ne regretta rien. Ses souffrances d'autrefois étaient payées. Quand ils rentrèrent, Madame Arnoux ôta son chapeau. La lampe, posée sur une console, éclaira ses cheveux blancs. Ce fut comme un heurt en pleine poitrine. Pour lui cacher ses déceptions, il se posa par terre à ses genoux et, prenant ses mains, se mit à lui dire des tendresses. « Votre personne, vos moindres mouvements, me semblaient avoir dans le monde une importance extra-humaine. Mon cœur, comme de la poussière, se soulevait derrière vos pas. Vous me faisiez l'effet d'un clair de lune par une nuit d'été, quand tout est parfum, ombre douce, blancheur, infinie. Et les délices de la chair et de l'âme étaient contenus pour moi dans votre nom, que je me répétais en tâchant de le baiser sur mes lèvres. Je n'imaginais rien au-delà. C'était Madame Arnoux, telle que vous étiez, avec ses deux enfants, tendre, sérieuse, belle à éblouir et si bonne. Cette image-là effaçait toutes les autres. Est-ce que j'y pensais seulement, puisque j'avais toujours au fond de moi-même la musique de votre voix et la splendeur de vos yeux ? Elle acceptait avec ravissement ses adorations pour la femme qu'elle n'était plus. Frédéric, se grisant par ses paroles, arrivait à croire ce qu'il disait. Madame Arnoux, le dos tourné à la lumière, se penchait vers lui. Il sentait sur son front la caresse de son haleine, à travers ses vêtements le contact indécis de tout son corps. Leurs mains se serrèrent, la pointe de sa bottine s'avançait un peu sous sa robe, et il lui dit, presque défaillant, « La vue de votre pied me trouble. » Un mouvement de pudeur la fit se lever, puis, immobile, et avec l'intonation singulière des somnambules, « À mon âge, lui, Frédéric, aucune n'a jamais été aimée comme moi, non, non, à quoi sert d'être jeune? Je m'en moque bien, je les méprise toutes celles qui viennent ici. Oh, il n'en vient guère, » reprit-il complaisamment. Son visage s'épanouit, et elle voulut savoir s'il se marierait. Il jura que non. « Bien sûr. » « Pourquoi ?»« À cause de vous, » dit Frédéric en la serrant dans ses bras. Elle y restait, la taille en arrière, la bouche entrouverte, les yeux levés. Tout à coup, elle le repoussa avec un air de désespoir, et comme il la suppliait de lui répondre, elle dit en baissant la tête, « J'aurais voulu vous rendre heureux. » Frédéric soupçonna Madame Arnoux d'être venue pour s'offrir. Et il était repris par une convoitise plus forte que jamais, furieuse, enragée. Cependant, il sentait quelque chose d'inexprimable, une répulsion et comme l'effroi d'un inceste. Une autre crainte l'arrêta, celle d'en avoir dégoût plus tard. D'ailleurs, quel embarras ce serait. Et tout à la fois par prudence, pour ne pas dégrader son idéal, il tourna sur ses talons et se mit à faire une cigarette. Elle le contemplait, tout émerveillé. « Comme vous êtes délicat. Il n'y a que vous, il n'y a que vous. » 11 heures sonnèrent. « Déjà ? » dit-elle. « Au quart, je m'en irai. » Elle se rassit, mais elle observait la pendule, et il continuait à marcher en fumant. Tous les deux ne trouvaient plus rien à se dire. Il y a un moment, dans les séparations, où la personne aimée n'est déjà plus avec nous. Enfin, l'aiguille ayant dépassé les 25 minutes, elle prit son chapeau par les brides, lentement. « Adieu, mon ami, mon cher ami. Je ne vous reverrai jamais. C'était ma dernière démarche de femme. Mon âme ne vous quittera pas. Que toutes les bénédictions du ciel soient sur vous. » Et elle le baisa au front comme une mère. Mais elle parut chercher quelque chose et lui demanda des ciseaux. Elle défit son peigne. Tous ses cheveux blancs tombèrent. Elle s'en coupa brutalement, à la racine, une longue mèche. « Gardez-les. Adieu. » Quand elle fut sortie, Frédéric ouvrit sa fenêtre. Madame Arnoux, sur le trottoir, fit signe d'avancer un fiacre qui passait. Elle monta dedans, la voiture disparut, et ce fut tout. Chapitre 7e. Vers le commencement de cet hiver, Frédéric et Deslauriers causaient au coin du feu, réconciliés encore une fois par la fatalité de leur nature qui les faisait toujours se rejoindre et s'aimer. L'un expliqua sommairement sa brouille avec Madame d'Ambreuse, laquelle s'était remariée à un Anglais. L'autre, sans dire comment il avait épousé Mademoiselle Rock, conta que sa femme, un beau jour, s'était enfuie avec un chanteur. Pour se laver un peu du ridicule, il s'était compromis dans sa préfecture par des excès de zèle gouvernemental. On l'avait destitué. Il avait été ensuite chef de colonisation en Algérie, secrétaire d'un pacha, gérant d'un journal, courtier d'annonce, pour être finalement employé au contentieux dans une compagnie industrielle. Quant à Frédéric, ayant mangé les 2/3 de sa fortune, il vivait en petit bourgeois. Puis, ils s'informèrent mutuellement de leurs amis. Martineau était maintenant sénateur. Hussonnet occupait une haute place où il se trouvait à voir sous sa main tous les théâtres et toute la presse. Sisy, enfoncé dans la religion et père de 8 enfants, habitait le château de ses aïeux. Pellerin, après avoir